Fluxfor.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Fluxfor continue ses émotions, ses émissions à Belfort. Je suis Kusofo Olu au micro, toujours en compagnie de mon collègue Nicolas Bézard et notre réalisateur Olivier Legras, qui semble avoir finalement battu son angine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ramon Zurka, dont le nouveau film Le Moineau dans la cheminée est présenté en compétition officielle après avoir parcouru de nombreux festivals à travers le monde. D'abord, passant par le festival de Locarno, où j'ai eu l'occasion de le découvrir. Ramon Zurka a fasciné le public cinéphile avec son premier long métrage L'étrange petit chat en 2013, qui a été révélé dans les sections forum de la Berlinale ainsi que à l'Acide à Cannes. Avec son récit à la fois simple et dense, autour d'une réunion familiale dans un appartement berlinois, L'étrange petit chat a livré une vision idiosyncratique du quotidien, de l'espace intime dans lequel les êtres humains et non humains sont abordés par le même sentiment de curiosité, de la fascination et de la distance. Après un long intervalle de 8 ans, Ramon Zurka a fait son retour avec La jeune fille et l'araignée, co-réalisée et co-écrite avec son frère Sylvain, cette fois-ci sélectionné et Encounters à la Berlinale aussi. Le film explorait un microcosme familial dans les contextes d'un déménagement imminent. Et par sa continuité thématique et esthétique avec L'étrange petit chat, leur seconde œuvre confirmait une identité cinématographique singulière et fascinante que peu de cinéastes parviennent à atteindre, même après de nombreux films. Avec Le Moineau dans la cheminée, troisième volet de la trilogie dite animalière, Ramon Zurka semble opérer une rupture inattendue. Contrairement à la continuité thématique qu'on aurait pu attendre, le film distille une violence surprenante, presque révoltée, à la fois sur le plan narratif et formel. On y retrouve pourtant l'univers caractéristique des Zurka, peuplé de figures familières, des animaux, une mère centrale autour de laquelle naviguent et gravitent les autres membres de la famille, mais aussi d'autres personnages qui sont en marge de cette famille. Mais ici, les relations, qu'elles soient narratives ou formelles, se forment pour être brûlée, au sens propre comme au figuré. Donc ma première question porte sur cette conception de trilogie et le rôle joue ce troisième film. Est-ce que dès la conception de l'écriture du film, cette idée de créer une sorte de différence par rapport aux deux films était présente? Donc, ou bien l'idée des trilogies existait déjà?
En fait, c'était comme ça que après L'étrange petit chat, alors mon ou notre premier long métrage, après ça, j'avais l'impression ou j'avais envie de créer, d'écrire un film qui est moins statique. Ce qui veut dire, parce que le premier film, c'était comme un portrait de famille. Ça jouait dans un appartement pendant une journée. Il n'y avait pas vraiment un développement, mais c'était un portrait, c'était l'observation quotidienne de cette famille. Et donc, tout ce qu'il y avait comme développement, c'était par exemple que la lumière de jour devient la lumière artificielle du soir et qu'on rencontre cette famille. Mais au niveau de la narration, il n'y avait pas un développement. Et pour moi, c'est toujours intéressant, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine, d'avoir comme une petite marque, marque de question, ou d'avoir comme une question.
Un point d'interrogation.
Oui, exactement. De essayer quelque chose de nouveau. Et chez Le Moineau dans la cheminée, je voulais regarder comment ça fonctionne de modeler, de dessiner, de créer un petit développement, même si ce n'est pas tout classique, même si c'est peut-être étrange, abstrait, mais oui, de modeler comme un rythme ou quelque chose oui, qui se développe.
Ce développement, on le ressent au point de vue scénaristique, mais on le sent aussi au point de vue physique, au point de vue spatial. Parce que la maison se développe au fur et à mesure du film, en tout cas dans notre regard de spectateur. J'ai l'impression que cette maison, c'est un personnage à part entière, en fait. C'est une présence très concrète, et en même temps, c'est un lieu qui résiste à nos tentatives de le penser comme une entité cohérente. Car vous ne la filmez jamais deux fois de la même façon. Cette maison, le cadrage opère toujours de discrets décalages du point de vue qui font qu'on a l'impression d'en découvrir constamment de nouvelles facettes, en fait. De nouveaux appendices qui nous obligent à actualiser justement notre vision de cette maison, notre perception de cette maison. C'est une manière de montrer une maison que j'ai déjà ressentie, moi, par exemple, devant les films de Yajuzero Ozu. Alors si, par exemple, on s'amusait à partir du voyage à Tokyo de dessiner un plan au sol de la maison de ce film de Ozu, où habitent les personnages, puisque c'est les grands-parents qui viennent chez leurs enfants, enfin les parents qui viennent chez leurs enfants habiter, eh bien, je pense qu'on aboutirait très vite à un dessin architecturalement parlant incohérent et complètement incomplet. Et ce sera un petit peu la même chose dans votre film, parce qu'il y a une sorte de désorientation comme ça de l'espace permanent, et en même temps je me réfère au Zoo, et évidemment vous avez deux styles très, très... Enfin, votre style ne ressemble pas à celui d'Ozu, mais il y a un questionnement autour de la famille. Comment des gens très différents arrivent à vivre sous le même toit? Ça, c'est un questionnement que je retrouve aussi chez ce cinéaste.
Oui, exactement. Alors, c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup intéressé de montrer cette maison, ou de le montrer, de le raconter, comme si c'était aussi un personnage principal. Et quand on était à la recherche de cette maison, c'était très difficile de trouver quelque chose en Suisse qui n'était pas trop neuf. Parce que comme dans cette famille, il y a aussi le passé qui joue un rôle principal qui est très important. Et donc, on voulait trouver une maison dans laquelle il y a un certain passé, une certaine patina. Et aussi, par exemple, les films de Ozu, les images montrent une certaine clarté et c'est très clair. Il y a des lignes très claires et souvent la caméra, c'est la hauteur des regards. Et aussi, je crois que l'objectif, il a toujours pris un certain objectif.
50 mm qui ne déforme pas la vision humaine.
Oui, et déjà quand on tournait L'étrange petit chat, on avait aussi envie d'avoir comme des petites règles. Alors, parce qu'en fait, la caméra, elle peut faire beaucoup de choses. Elle pourrait toujours bouger. Elle peut avoir beaucoup d'objectifs. Alors, en fait, elle peut faire n'importe quoi. Mais ce qui nous intéressait, c'était de la manière formelle de se limiter, de créer comme une prison, disons. Mais dans la narration, d'y être assez libre. Même si là, il y avait aussi la prison alors qu'il n'y a pas beaucoup d'ellipses, c'est presque comme real-time storytelling.
C'est du temps réel.
C'est temps réel, oui. Temps réel. L'unité du temps, l'unité de l'espace. Donc, en fait, il y avait beaucoup de prisons, mais en écrivant le scénario, là, je voulais être très libre et me promener, que beaucoup de choses sont possibles. Mais comme vous avez dit, en fait, cette maison, on voulait là aussi créer comme une prison, que les chambres, que les portes, que tout soit un peu claustrophobique. Et autour de cette maison, il y a le champ, il y a l'été, il y a les oiseaux, il y a presque comme un petit paradis très ensoleillé, que dans cet espace de l'été, il y a comme une prison, cette prison de cette famille.
Parler de ces plans un petit peu claustrophobes, moi, ce qui m'a aussi étonné, et ensuite je laisserai vraiment développer son entretien, c'est la dimension chorégraphique de votre mise en scène des corps. C'est-à-dire que dans un endroit restreint, il y a beaucoup de gens. C'est une famille où il y a beaucoup de gens qui arrivent, voilà, pour cette occasion estivale. Et donc, il y a énormément de corps qui gravitent comme ça, les uns autour des autres, des entrées de champs, des sorties de plans. Et pourtant, tout paraît absolument fluide, naturel, chorégraphique, Comment vous avez travaillé ça? Est-ce que c'est facile de travailler dans des espaces si petits avec autant de monde? Et comment vous avez réussi à résoudre justement cette difficulté?
En fait, c'était quelque chose qui était très, très difficile parce que la maison, là, il y avait une rue. Et donc, on devait toujours avoir les fenêtres fermées. Donc, c'était en été, c'était très, très chaud. Et donc, c'était difficile à garder la concentration. Mais de créer cette mise en scène, c'est en fait la chose la plus compliquée aussi pour les acteurs, les actrices. Parce que souvent, comme la caméra elle est statique, il y a des positions, des points où les acteurs doivent y être pour que c'est la position la plus idéale.
Des repères au sol?
Oui, exactement. Alors, en fait, il y avait toujours des positions où les acteurs, les actrices devaient être à des certains moments, mais quand même leur jeu, alors la façon dont ils jouent, devait être assez naturel, fluide et pas trop artificiel, parce que déjà la caméra et oui, ces règles formales ont quelque chose de très stylisé, mais donc ça c'était parfois aussi en conflit. Mais en fait, ça a très bien, ça a très bien joué à la fin. Et oui, mais en fait, c'était aussi marrant pendant le tournage parce que parfois les acteurs sont presque comme explosés parce qu'ils n'ont jamais trouvé cette position qui était très importante. Oui, mais en fait, cette mise en scène, je l'ai pensée parfois déjà pendant le process de l'écriture. Après, on a fait des storyboards, on a dessiné des plans. Et oui, on avait quelque chose en tête. Et au jour du tournage, on l'a présenté aux acteurs. Et après, on a regardé si ça fonctionne. Et pendant ce travail, on l'a perfectionné. Et après, en répétant, on a trouvé la musicalité ou le rythme des scènes.
Justement, sur le même point, j'avais une question sur les présences hors champ. Parce qu'il y a pas mal de moments où on découvre qu'une personne est présente dans cet espace après avoir entendu que l'autre personne parlait de cette personne-là. Donc, est-ce que pendant l'écriture, cette configuration spatiale était présente? Donc, De savoir qui était dans ce lieu défini, ou bien ça a développé après vous travaillez pendant le tournage?
En fait, toutes ces choses, alors la position des acteurs, alors des personnages, tout ça c'était déjà écrit. En fait, il y a très très peu de choses qui se sont passées pendant le tournage. Très peu de choses sont improvisées. Mais en fait, c'est quelque chose de très important, ces regards, quand quelqu'un est observateur. Et oui, en fait, la cuisine, pour nous, c'était toujours l'endroit social où il y avait beaucoup d'interactions entre ces membres de famille. Après, il y a les chambres, par exemple, la chambre du petit garçon de Léon, la chambre de la fille de Johanna. Et là, il y a plutôt des scènes intimes, des rencontres intimes où il y a aussi une certaine proximité émotionnelle qui se passe. Et là, parfois, il y a des observateurs dans les portes qui écoutent ou est quelque chose que peut-être la personne qui est dans la chambre n'aurait pas dit à l'observateur. Mais le fait que l'observateur, l'observatrice l'a écouté, change un peu les relations entre les membres de famille. Mais cette chorégraphie de regard est quelque chose qui m'a intéressé déjà dans mes courts-métrages, moyens-métrages, et c'est quelque chose qui m'intéresse, oui.
Une question sur la violence, parce que par rapport aux deux longs-métrages de cette trilogie, il y a quand même une sans vraiment spoiler ce qui se passe, il y a quand même une forte présence de scènes assez violentes. J'aimerais savoir comment ces moments ont apparu à l'écran, parce que
peut-être la conception présence dans le texte et à l'image peuvent créer des effets, des impacts différents, ou bien la vision présente dans le scénario. Comment vous, ça s'est développé pour vous de voir à l'image de ce que vous avez imaginé? Est-ce que ça correspondait? Donc, comment ça a changé pour vous de l'écriture à l'image?
Alors, comment ça a changé de l'avoir pensé pendant l'écriture, oui, et après avoir vu ces formes?
Oui.
En fait, en l'écrire, c'était presque comme si je l'avais déjà vu. Mais ce qui est peut-être pour moi important, parce que même si c'est une maison qui est visible, pour moi, tout le film est comme un endroit ou un paysage psychologique. C'est presque comme si c'est une sculpture audiovisuelle d'une psyche, on dit. Psyche.
C'est une projection mentale, un paysage mental, du coup.
Oui, d'une psyche.
Oui, d'une psyché.
Psyché, oui. Et en fait, cette violence, par exemple, la violence physique, pour moi, c'est aussi comme une violence psychologique. Et toutes ces violences qui se passent dans cette famille, oui, c'est comme des symptômes. Et aussi que c'est comme un univers d'autodestruction. Mais ce qui était important pour moi, qu'il n'y a pas que des habits, qu'il y a aussi des moments très légers, qu'il y a que c'est aussi parfois comme drôle et pas seulement très sinistre et triste, qu'il y a ces contrastes, parce que je trouve avec les contrastes on fait que l'univers concret devient plus ambigu, plus complexe, ce qui est plus proche à la réalité. Et donc oui, mais en général, je dirais que les habits ou des conflits ou des crises, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, oui, j'essayais de le montrer si profond que possible.
Alors, on peut parler de violence. Cette violence, elle se redouble aussi d'une forme d'inquiétante étrangeté qui grandit comme ça au fil des scènes et au fil du temps dans le film. Qui frise même le surnaturel parfois. Et j'ai l'impression que cette inquiétante étrangeté, elle arrive aussi par les sons de cette maison, qui sont perçus parfois de manière un peu violente par les personnages. Je pense à des portes qui claquent, à des sonneries, des alarmes de comment dire, matériel électroménager, qui d'un seul coup sortent les personnages de leurs pensées et les amènent sur un autre plan psychologique presque. Comment vous avez travaillé tout ce hors-champ sonore et cette matière sonore qui est presque aussi parlante en fait que les dialogues des personnages?
En fait, déjà quand j'écris le scénario, j'essaye de toujours visualiser ce qui est visible et ce qui est audio, alors ce qu'on écoute, et donc tout ce qu'on entend c'est toujours vert et tout ce qu'on voit c'est toujours noir. Et donc, déjà, on peut, oui, avoir une certaine conscience, pas seulement de ce qu'on dit, ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Parce que j'ai vraiment l'impression que les sons, parfois, c'est plus important pour l'atmosphère, l'ambiance dans un film, plus important que, par exemple, les actions, les dialogues. Et oui. Alors, c'est quelque chose de très essentiel pour l'atmosphère et dans ce film qui, pour moi, est aussi comme un film d'horreur, mais subtil, pas un film d'horreur extrême avec beaucoup d'effets d'horreur, mais c'est pour moi comme un film d'horreur et cette maison où il y a la grand-mère décédée qui est comme un démon, comme un nuage noir qui est omniprésent. Donc, pour moi, la maison, c'était aussi un peu ce démon ou cette grand-mère qui fait certains bruits où il y a certains doigts. Et donc, oui, c'était important que cette maison devienne ou reçoit une certaine existence, une certaine présence.
Et concernant le personnage, est-ce que c'est toujours la mère, parce que c'est quand même une figure récurrente dans trois films, qui est toujours même au centre de l'image, parce qu'on voit toujours, il y a certains plans qui reviennent, la mère, on voit de dos au centre. Et donc, pendant l'écriture, c'est à partir d'elle que vous construisez d'autres membres de famille, ou bien c'est vraiment comme c'est le cas de grand-mère, peut-être, qui crée une sorte d'élément perturbateur dans l'histoire pour l'écriture ou de conception de cette famille de chorale.
Alors, surtout L'étrange petit chat et maintenant Le moineau de l'encheminée, c'est vraiment le rôle de la mère qui était toujours en centre dès le début de l'écriture. Le deuxième film, La jeune fille et l'araignée, là, c'est plutôt les deux jeunes femmes où il y a cette amitié ou presque comme une histoire d'amour, on ne sait pas vraiment, entre ces deux jeunes femmes. Mais le premier et le troisième film, c'était vraiment toujours la mère, ce personnage qui était au centre. Et oui, j'ai l'impression que c'est parce que j'ai commencé à écrire ce film juste après L'étrange petit chat. Et là, ce sujet, ce personnage était très intéressant et très important pour moi. Et oui, et j'ai vraiment, après avoir centré ou focusé ce
concentré sur ce
personnage, j'ai construit les autres membres de famille, les filles, la sœur et tous les autres, et en les construisant, en les dessinant, c'était toujours important comment la relation de ce membre de famille est avec Karen, alors la mère.
Personnellement, comme j'aime beaucoup votre cinéma, donc je pense toujours le film par rapport à ce que vous avez fait avant, donc c'est une sorte de geste, un instinct de ma manière de regarder de film. Mais je suis curieuse de savoir votre perception par rapport aux gens qui découvrent pour la première fois votre cinéma à travers le moineau, les cheminées. Comment, selon vos expériences dans le festival, des gens qui vont le... Parce que j'ai l'impression que il peut y avoir des réflexions, des visions différentes d'un spectateur qui découvre votre cinéma pour la première fois avec ce film et avec ceux qui connaissent déjà et voient ce film. Donc, vous avez eu des expériences, des interprétations différentes pendant ce voyage de festival pour le film.
Alors, si j'avais eu des interprétations différentes...
Des commentaires des gens qui viennent vous parler, de demander, de poser des questions sur le film. Et comment vous percevez vous-même cette différente vision du cinéma chez vos spectateurs, de vos spectateurs nouveaux et de vos adeptes, peut-être, on peut dire.
Comme le film, il est né seulement il y a 2-3 mois, donc en fait il est encore tout nouveau. C'est encore difficile de faire comme une petite analyse, mais j'ai l'impression que ce troisième film, il y a plus de contraste entre des moments très tendres et intimes et des moments assez durs et agressifs. Donc le spectrum entre quelque chose d'une certaine chaleur et d'une certaine froideur, ce spectrum est plus contrasté, plus grand. Et donc, j'ai aussi l'impression que les réactions sont plus... il y a plus qui sont très attirés, qui l'adorent, qui l'aiment beaucoup, et quelques-uns qui sont comme presque un peu provoqués ou choqués. Et j'ai l'impression que c'est parce que le film... Il est d'une côté plus dur et plus sombre, plus sinistre, plus sombre, et de l'autre côté, oui, plus intime. Alors, c'est ce que je remarque, j'ai l'impression. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de spectateurs, pour eux, c'est moi, c'est plus facile d'entrer dans ce troisième film parce qu'il y a quand même ce passé de la famille qui devient un sujet, qu'il y a un certain élément où ils peuvent avoir comme un accès plus simple d'y entrer. C'est quelque chose que une réaction que j'entends souvent. Et que, parce qu'une idée, c'était que le premier film, c'est comme de la musique de chambre. Le deuxième film, c'est comme une balade mélancolique. Et le troisième film, c'est comme une opéra explosif, destructif. Et j'ai l'impression, selon les réactions, que ça marche un peu comme ça.
Qu'est-ce qu'on aura après l'opéra ? Est-ce que vous savez déjà ?
Alors, la trilogie maintenant, elle est terminée. Je suis aussi très heureux. Et Sylvain, mon frère jumeau, maintenant, il écrit un thriller psychologique érotique. Et il est en train de l'écrire. Et après, je ferai la mise en scène de ce film. Et moi, j'écris un film sur des adolescents. C'est un film d'amour, comme une utopie. C'est aussi un peu, ça parle aussi un peu plus de la société. Et des adolescents qui créent comme une propre utopie pour avoir une certaine distance à la société. Et c'est un film d'amour qui porterait des jeunes adolescents. Et oui, ça c'est le projet que maintenant je suis en train de développer.
Ah, donc nous avons hâte de les découvrir. Merci beaucoup pour avoir partagé cette belle entretien avec nous.
Merci beaucoup, Ramon.
Merci à vous.
Flux4. La web station européenne.
Vous écoutez Flux4.
Écoutez Flux4 sur flux4.eu.